et merci à tous d'être là. Donc nous allons dans cet atelier parler de labellisation et de la nécessité ou pas d'avoir une labellisation pour le patrimoine avec...
Ça sera sur le F. Ouais. Bon, on peut y aller ?
Oui.
Voilà, j'espère que les problèmes techniques sont réglés. Donc, je parlais de labellisation et donc de la nécessité ou pas de labelliser le patrimoine, ce qui suppose qu'il a été reconnu. Et j'imagine qu'on va parler d'un work in progress, de la manière dont on peut labelliser progressivement un patrimoine à partir de quatre questions générales. Les labels sont-ils un passage obligé pour la reconnaissance du patrimoine ? C'est une manière occidentale, dirons-nous, de voir le patrimoine. Labellisation et protection réglementaire, quelles équivalences et quelles différences dans tout l'arsenal pour protéger ce patrimoine ? Quels labels sont les types de patrimoine, selon les types de patrimoine concernés ? Effectivement, si on a aujourd'hui la notion de patrimoine, c'est... considérablement élargi, et si l'on doit sauvegarder des quartiers, des bâtiments ou des parcs ou du végétal, on n'a pas forcément le même arsenal pour conserver ce patrimoine. Et quels engagements supposent-ils ? Des engagements financiers, humains, politiques, évidemment. Alors, pour démarrer et pour prendre un point de distance par rapport à nos questions de patrimoine et la manière dont on peut le voir en France, qui est un dispositif assez rodé, et avec les avantages et inconvénients d'un dispositif rodé, c'est-à-dire qui fonctionne bien, mais en même temps, il ne permet pas forcément toujours d'accueillir ce qui est nouveau. Je vous propose, Monsieur Kazimzada, de parler de Bakou et de la manière dont vous avez envisagé le patrimoine et les outils que vous êtes donnés pour pouvoir avoir une politique patrimoniale pour aujourd'hui et pour demain, j'imagine. Mais si vous voulez nous présenter votre intervention.
Благодарю вас за внимание. Признателен за то, что мне дана возможность поделиться своими мыслями о проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Прежде всего, нам надо признаться, что ежегодно с лица земли безвозвратно стираются тысячи памятников материальной культуры. Это происходит по многим причинам. И, к сожалению, из-за деятельности людей памятников уничтожается гораздо больше, чем в результате войн. Я думаю, что причина в непонимании людей, управляющих территориями, равно как и людей, продвигающих проекты развития территорий. Вот мы сейчас на предыдущей презентации слушали информацию наших санкт-петербургских коллег по поводу инвестирования в регенерацию исторического района города Санкт-Петербург. Я думаю, что успешность этого проекта в том, что инвестор очень хорошо был информирован об условиях и очень хорошо понял задачу, которая перед ним стоит. Значит, причина все-таки в информированности, и причина в том, чтобы люди, как управляющие территориями, так и занимающиеся их развитием, имели четкое представление о наличии на этой территории памятников материальной культуры. Поэтому программа маркировки памятников очень серьезна и очень актуальна. Можно издавать каталоги, можно делать списки и выставлять их в средствах массовой информации. Но я не уверен, что люди, которые должны это все соблюдать, читают это все. Если на каждом памятнике материальной культуры будет расположена исчерпывающая информация о нем, то каждый человек, который будет подходить к этому зданию, он вынужден будет немножечко подтянуться. И тут важно не только название здания, дата его создания. Человеческий разум очень склонен к каким-то авторитарным параметрам. Важно, чтобы здесь была информация, кто автор этого здания. Чтобы было известно, кто построил это здание на свои средства. И даже чтобы было известно, кто из великих людей современности в этом здании хоть какое-то время жил. У нас сегодня в практике города Баку ведется последовательная работа по осуществлению того, о чем я говорил. Мало того, что государство в лице Министерства культуры размещает на этих зданиях соответствующие информационные таблички, Есть инициатива Союза архитекторов Азербайджана размещать на этих зданиях таблички с именами архитекторов. Более того, приведу вам пример. В центре Баку, на набережной, расположен дворец Гаджинского, Гаджинский. Здание было построено в конце XIX века. Построил его польский архитектор Плошко. Владельцем здания был нефтепромышленник Гаджинский. И в этом здании две ночи ночевал выдающийся политический деятель мира Шарль де Голль. Он ночевал в этом доме по пути на Тегеранскую конференцию. Все это на этом здании показано. И вряд ли кому-нибудь придет в голову мысль о том, что на месте этого здания можно построить что-то другое, или даже попробовать его обустроить на свой вкус. То есть я считаю, что практика маркировки памятников является одним из наиболее правильных и эффективных способов их сохранить. Кроме того, есть еще одна проблема. Мы стали делить памятники материальной культуры на памятники мирового значения. Государственного значения, местного значения. На мой взгляд, сегодня человечество живет в такое время, когда сохранение памятников материальной культуры, в том числе и памятников архитектуры, уже не является способом сохранения национального самосознания. Сегодня нам надо думать о сохранении мирового наследия. О сохранении наследие человеческой цивилизации. Мы слишком увлеклись созерцанием и восхвалением достижений своих народов в своих странах. И не замечаем, как в других странах, где нет средств для поддержания этих памятников, с лица земли стираются следы общечеловеческой цивилизации и культуры. Вот как я вижу эту проблему и как думаю, что мы можем все-таки сохранить то, что все еще осталось. В Азербайджане есть фонд, носящий имя одного из выдающихся политиков Азербайджана, имя Гейдар Алиева. Этот фонд создан на общественные средства и проводит очень большую работу по реставрации и реабилитации памятников не только в Азербайджане. Около 2 лет тому назад этот фонд инвестировал в реставрацию одного из корпусов Лувра, Дрезденской галереи, музея Питти и многих других объектов в различных странах мира. Это говорит о приверженности моей страны тому отношению к наследию, о котором я сегодня говорил. Благодарю за внимание.
Merci beaucoup. LB, je peux vous appeler LB peut-être. Merci, c'était vraiment très clair et très intéressant, votre intervention, parce qu'elle... et j'ai retenu une chose très importante, c'est l'idée générale que vous faites du patrimoine qui n'appartient pas qu'à un pays, mais qui est plutôt un patrimoine mondial, ce en quoi ça rejoint un certain nombre de positions de l'UNESCO, mais c'est particulièrement vrai pour votre pays, c'est vrai aussi pour la France, parce que on a trop tendance, avec la période nationaliste, à considérer le patrimoine comme quelque chose de figé, comme quelque chose qui appartient à un pays, alors que les flux migratoires et les cultures se sont croisés, et c'est évidemment une vision très étriquée que de considérer que le patrimoine comme étant un patrimoine national. Il n'empêche qu'il y a une dimension locale aussi, c'est-à-dire que le patrimoine, il a plusieurs interventions, plusieurs niveaux d'intervention. Et comme vous le disiez très justement, un bâtiment est essentiel dans sa position dans la ville, dans son histoire et dans ce qu'il peut dire aux gens. Donc vous avez une politique patrimoniale très clair, ce que vous avez dit est très clair, qui est organisé et qui est effectivement, qui a une dimension évidemment politique, mais qui permet aussi au pays de se développer. Il y a une dimension touristique aussi dans le patrimoine et c'est évidemment une des conditions de développement majeur si on le regarde en face pour développer le patrimoine. Ces outils, ils ont été mis en place aussi à peu près de la même manière à Bordeaux et je voudrais voir avec Madame Chadebos la manière dont le patrimoine est envisagé à Talence, proche d'un centre-ville qui est protégé UNESCO, ici, à Bordeaux. Mais cette notion-là, une fois que le centre de Bordeaux a été conservé, elle s'étend progressivement, et c'est l'intérêt de la démarche aussi, jusqu'à des positions ou des lieux comme Talence. Et je voudrais que vous disiez un mot aussi, vous aussi, sur Talence, sur votre manière que vous avez de voir le patrimoine, comment il s'inscrit aussi dans une politique nationale ou pas. Et ensuite, on reviendra peut-être aux questions que pose la labellisation, les avantages, les inconvénients et la manière dont on peut sans doute faire évoluer le projet.
Bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter en très, très vite Talence. Talence, c'est la banlieue la plus proche de Bordeaux. donc 45 000 habitants. Alors, un patrimoine architectural du XVIIIe siècle et du patrimoine contemporain qui donc s'approprie quelque part, puisque la conférence de tout à l'heure c'était sur l'appropriation, qui s'approprie l'ancien pour l'intégrer dans le contemporain. Alors, le patrimoine sur Talence, qui est donc aussi un patrimoine industriel, puisque parce que nous allons rejoindre le patrimoine UNESCO, le classement UNESCO de Bordeaux, via le quartier des Échoppes, qui est un quartier qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO à Bordeaux. Et donc Talence a un double patrimoine, ses échoppes et un gros patrimoine, pardon, et un gros patrimoine hérité du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, sur l'histoire du vin à Bordeaux. Alors, Talence est sur le passage entre Bordeaux et l'Espagne. Et toutes les propriétés viticoles, il y en avait 83. Il y en avait donc 83 au milieu du XXe siècle. Donc aujourd'hui, notre question qui se pose, c'est étudier les labellisations de certains lieux pour que les Talençais, mais l'environnement de Talence s'attribue ce patrimoine, se l'approprie, et qu'ensuite nous puissions l'utiliser et le valoriser.
Oui, alors les deux interventions que vous avez faites montrent clairement l'intérêt de la labellisation. En tous les cas, que j'ai compris de vos interventions. Après, j'aimerais vous poser la question de savoir, pour labelliser, évidemment, il faut reconnaître et identifier le patrimoine. Et tous les deux, vous avez parlé chacun de votre manière d'histoire. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le patrimoine, c'est que c'est une manière de compléter, voire à certains moments, de repenser l'histoire. Puisqu'il peut y avoir patrimoine qu'à partir du moment où il y a une histoire écrite et partagée par tout le monde. Sinon, la notion de patrimoine ne peut pas exister. Oui, je disais qu'il peut y avoir une notion de patrimoine qu'à partir du moment où il y a une histoire écrite et partagée par tout le monde. Si je prends, pour être plus clair, je prends l'exemple de Beyrouth, au Liban, qui est fait de communautés avec des chiites, sunnites et chrétiens, et ils n'arrivent pas à avoir une politique patrimoniale parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils ne voient pas la même histoire de la ville. Donc la notion de patrimoine, elle fédère un pays, elle fédère une population. Quand on parle d'appropriation, c'est appartenir à une communauté par le patrimoine. Donc ma question, je vais commencer par vous la poser, LB, et puis je la poserai à Mme Chadebos, c'est quels outils vous vous donnez, parce que là on parle de bâtiments, après on pourra parler d'autres strates de patrimoine dans la ville, mais quels outils vous donnez pour effectivement repérer ce patrimoine, ensuite le protéger par la labellisation ?
Как бы мы ни пытались в своей профессиональной практике абстрагироваться, на мой взгляд, архитектурная профессия, она больше, чем любая другая творческая, связана с государством. Если в государстве есть стабильность, если есть согласие и единство между всеми национальными общинами и религиозными конфессиями, то наша деятельность значительно облегчается. Особенно, когда речь идет о сохранении наследия. В Азербайджане изучение архитектурного наследия – это одно из приоритетных направлений деятельности государства. У нас даже на каком-то этапе существовало специальное министерство по охране памятников истории и культуры. Но сейчас в связи с тем, что Совет Европы требует оптимизации аппарата управления, это министерство объединено с Министерством культуры. Но при этом государство считает возможным иметь целые территориальные образования с совершенно автономным статусом подчинения непосредственно кабинету министров. Таким, значит, территориальным объединением в центре Баку есть историко-архитектурный заповедник Ичари-Шахар. Ичари-Шахар. Даунтаун. Историко-архитектурный. Это внутренний город. И он имеет свою автономную администрацию. Не подчиненную Министерству культуры. То есть государство постоянно покровительствует тем процессам, которые происходят внутри этого старого города. Я просто приглашаю вас приехать и посмотреть. Я объездил очень многие города мира. видел очень много заповедных городов. И я считаю, что нам есть чем гордиться. В конце нашей сегодняшней беседы мы покажем вам небольшой клип о нашей стране. И там вы увидите кадры, снятые на этой территории. Просто запомните два слова. Ичари шахар. Шахар. Внутренний город. Как только вы это услышите, знайте, что речь идет об этой территории. То есть вы совершенно очень хороший пример привели о Бейруте. Я очень люблю этот город, потому что там живет мой очень близкий друг, чудесный архитектор Мишель Бармаки. И каждая моя беседа с ним оставляет в моем сердце какую-то боль за то, что они не могут в должной мере работать над сохранением наследия. Вот эта вот разобщенность мешает им. И я думаю, что причина все-таки не в людях. Причина в государстве. Да. Да.
Oui, c'est tout à fait clair. Mais je dois rajouter aussi, avant de vous passer la parole, Madame Chadebos, que il y a aussi une tradition culturelle dont on a plus ou moins conscience, mais qui dure depuis des siècles. Et Beyrouth est une ville qui s'est toujours constituée à partir d'une classe dominante. Et la classe dominante qui est arrivée à Beyrouth a toujours rasé ce qu'il y avait avant. Beyrouth n'a pas une culture, parce qu'elle est entre l'Orient et l'Occident, elle n'a pas une culture de stratification des villes. Quand les Romains sont arrivés à Beyrouth, ils ont rasé la ville phénicienne. Rasé la ville phénicienne, oui. La ville médiévale a rasé la ville romaine. L'Empire ottoman a rasé la ville médiévale. Les Français ont rasé la ville, mais complètement, hein, le centre-ville. Les Français ont rasé complètement le... Et ce qui passe aujourd'hui avec Solidaire, d'une certaine manière, c'est la même violence. Hein, parce que sur le principe de la guerre civile, tout le centre-ville est refait, sauf deux, trois bâtiments qu'ils ont gardés, sauf les édifices religieux. Donc il y a ça aussi, dans les politiques patrimoniales, il y a aussi cette question qui pèse, c'est-à-dire le rapport qu'on a à l'histoire et qu'on véhicule sans le savoir forcément tout le temps. Une culture porte ça aussi. Mais vous avez raison de noter le rôle central de l'État. Hein, s'il n'y a pas une volonté politique forte, il n'y a pas patrimoine. C'est clair, c'est le problème de Beyrouth. Nous, en France, on a évidemment une politique patrimoniale forte avec des divers degrés, comme vous d'ailleurs, hein, de stratification, de labellisation avec ce qu'on peut appeler le grand patrimoine, après le patrimoine plus domestique ou moins visible du premier coup d'œil, parce que le grand patrimoine en France, il est classé depuis longtemps. Et vous, à Talence, vous situez bien dans cette hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui fait patrimoine, sachant que les grands bâtiments patrimoniaux ont déjà été classés, et quels outils vous vous donnez pour pouvoir le repérer et le labelliser ou pas ?
Oui, alors c'est vrai qu'en France, quand même, quelque part, on a beaucoup rasé pour reconstruire par-dessus aussi. C'est aussi quelque part, quand on construit aujourd'hui, on retrouve l'histoire d'hier aussi. Ça, je crois que c'est important. Alors, c'est vrai que l'urbanisme contemporain utilise toujours le socle de l'urbanisme ancien. Et j'utilise volontairement le mot urbanisme parce que je pense que maintenant, le patrimoine doit aussi être rattaché à la délégation d'urbanisme. Il est impératif. Parce que notre mode de vie doit aussi intégrer notre histoire, notre culture, notre patrimoine, mais en même temps, il n'est pas question de figer notre histoire, il faut la transmettre. Et la labellisation... La labellisation doit aussi maintenant aider à faire découvrir et à faire protéger par la connaissance du lieu, par la connaissance de l'histoire. Je suis d'accord avec vous sur le fait de raconter l'histoire sur les monuments. Parce que n'oublions pas que la politique aussi, c'est les habitants d'une ville et les habitants d'un pays, et que les dirigeants sont là pour, à un moment, entendre, écouter, et peut-être après agir. C'est vrai que nous, en France, on a, et à Bordeaux en particulier, on a une oreille très... très importante sur justement ce que peut être notre demain sur la base d'hier. C'est important. Et je pense qu'il y a d'autres régions. Il y a une personne qui veut intervenir et je pense que le Val-de-Loire peut raconter aussi une histoire.
Merci. Isabelle Longuet, directrice de la mission Val-de-Loire, patrimoine mondial, site... inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Je voudrais dire à notre invité de Bakou que je connais le centre historique de Bakou et que c'est un très très bel endroit. Je pense qu'il faut en effet, pour parler de labellisation, qu'il y ait déjà en amont une politique de protection du patrimoine. En France, la politique de labellisation s'est énormément développée dans le domaine du patrimoine depuis les années 80. C'est en quelque sorte la suite d'une politique bien assise et bien développée. On a aussi bien des labels publics que des labels privés. Des labels publics, par exemple, Musée de France, c'est un label. qui définit ce qu'est un musée et la qualité du musée. Ou les villes et pays d'arrêt d'histoire. Ou les villes et pays d'arrêt d'histoire. Bordeaux aussi est une ville d'arrêt d'histoire. Il y a aussi des labels privés dans le domaine du patrimoine. Je pense à la demeure historique, par exemple. Les propriétaires de grandes demeures, de châteaux, qui font de l'hébergement dans les châteaux, ont un label commun. Alors, un label, c'est deux choses. C'est qualifier et promouvoir. Qualifier, c'est-à-dire se donner des références communes qui vont attester de la qualité de l'objet, du patrimoine. Et pour le patrimoine, il est indispensable que ça repose sur une politique déjà bien établie de protection, qui est différente du label. Dans ce sens, le label est un facteur d'identité, d'identification des populations et d'identité. D'identité. Le deuxième paramètre du label qui est promouvoir, faire connaître, demande à s'allier avec des acteurs comme ceux du tourisme, par exemple, comme ceux de l'économie, qui vont contribuer à faire connaître ce patrimoine. Donc, et je pense que ces deux paramètres, la qualité, les références de qualité et la promotion, la capacité à faire connaître et à promouvoir, sont absolument inséparables si on veut qu'un label fonctionne. Alors, Bordeaux comme Bakou sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, comme le Val-de-Loire aussi. C'est vrai que il y a une course à la labellisation aujourd'hui, en tout cas en France, mais aussi dans d'autres pays. Et le label UNESCO est considéré comme le label ultime. Alors c'est vrai que... Il est connu dans le monde entier et du point de vue touristique, il commence à être un facteur de développement touristique. Mais si l'on regarde en France l'évolution des sites qui ont été inscrits au patrimoine mondial, comme le Val-de-Loire ou la ville d'Albi, par exemple. La notoriété et le développement touristique ne sont pas le seul produit du label, de la promotion du label. Mais ils sont le produit d'une politique d'ensemble, d'une politique globale en faveur de la qualité des territoires, de l'architecture, qualité urbaine, et c'est bien ce que démontre Bordeaux.
Merci, oui. Oui, vous nous amenez naturellement à le deuxième volet de ce débat ou de cet échange, cette discussion. Parce que autant la politique patrimoniale qui s'applique aux bâtiments est rodée, elle est établie, elle est finalement assez simple, sauf pour le patrimoine récent, mais elle est assez simple à déterminer. Autant il y a une autre couche, et Bordeaux est concerné par ça, sans doute Bakou aussi. Lorsqu'on conserve un quartier ou une ville, qu'est-ce qu'on conserve réellement ? Et qu'est-ce qu'on laisse comme degré de latitude pour que la ville puisse évoluer, sinon elle périra. Non mais attendez, oui s'il vous plaît, passerai la parole. Donc on est quand on parle de territoire et de, on parle de structure urbaine et de paysage. Or, aujourd'hui, ce que je peux constater, Bordeaux est en train de le faire, c'est qu'il y a finalement assez peu d'études qui démontrent sur le long terme l'évolution de ces villes et l'analyse de ces villes ou l'analyse de ces paysages. Parce qu'on est évidemment dans l'idée que le paysage qu'on a devant les yeux, c'est celui qu'il faut conserver. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que dans son évolution, il n'y avait pas des stades antérieurs où il vaut mieux raser des arbres et retrouver un autre équilibre. Ces études-là, elles sont absolument nécessaires, elles commencent à exister et elles sont passionnantes. Pour moi, plus que l'analyse des bâtiments. Est-ce que vous, à Bakou, vous avez pris une décision importante de rapprocher... vous aussi, hein, le patrimoine de l'urbanisme, c'est-à-dire dans ce lien qu'il y a, du point de vue des décisions, entre les études urbaines et le patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Et ça inclut les questions de paysage aussi, hein, évidemment.
Да, конечно. Совсем недавно мне выпала честь сделать проект регенерации одного из исторических районов Баку. Этот район формировался в конце 19 и в начале 20 веков. И наряду с, в общем-то, не очень интересной застройкой здесь расположены совершенно уникальные по красоте и по своеобразию здания. И по своеобразию. Когда я приступал к проекту, мне надо было собрать команду. Я подумал, что если я приглашу своих опытных и взрослых коллег, нам очень трудно будет сделать что-то полезное. Потому что каждый из них будет относиться к этим кварталам больше ностальгически, нежели профессионально. И я пригласил сделать эту работу вместе с собой молодых архитекторов, которые были когда-то моими студентами. И главная задача, которую мы поставили перед собой, это было сохранение градостроительной канвы, градостроительной сети. Масштаба кварталов, и масштаба застройки. Застройки, высота зданий. Очень важный момент адаптации новых зданий в исторической среде. На мой взгляд, связан с ритмом. Но не с вертикальным ритмом, а с горизонтальным ритмом. Вы понимаете, о чем идет речь. Когда уровень подоконников низ окна, да, он продолжается, а не скачет. Да, мы взяли на себя смелость убрать часть зданий, которые, может быть, были тоже старыми, но, на наш взгляд, они не представляли архитектурной ценности. И практически все освободившиеся территории мы превратили в пешеходную зону для туристов, для гостей города, для отдыха того населения, которое там останется. То есть мы, решая градостроительно вопрос регенерации исторического района города Баку, исходили все-таки из изучения каждого здания в отдельности. Но с целью не разрушить вот этот градостроительный рисунок, орнамент. Вот ту самую градостроительную канву, о которой мы говорили.
Oui, je crois qu'on se rejoint tout à fait. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont très intéressées pour que l'on parle du patrimoine dans l'urbanisme contemporain et en particulier des paysages, de l'environnement et des paysages. Je pense que la politique évolue énormément sans effacer le fait que le patrimoine autrefois, enfin il y a quelques années, était rattaché exclusivement à la culture. Je parle du niveau politique. On est de plus en plus intégré. On intègre le patrimoine dans l'environnement et le paysage. C'est une façon de protéger notre patrimoine. C'est une façon aussi de le faire vivre et de le faire évoluer. Et c'est vrai que la labellisation nous permet aussi, puisque je reviens sur le sujet, nous permet aussi d'appuyer sur certains... d'appuyer oui sur certains patrimoines qui sont aussi les environnements qui ont été créés au 18e, 19e et 20e siècle. On va reparler des jardins à la française puisque nous on en a un à Talence, hein. Voilà. Et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y avait effectivement déjà une réflexion sur les paysages et l'environnement des monuments. Oui, c'était ce que vous vouliez entendre.
Oui. Oui, oui, moi je voulais, puisque la biennale Agora là, est liée sur les questions de paysage. Et je voulais conclure avec cette notion-là, parce qu'en réalité, les paysages sont, de mon point de vue, beaucoup plus... Les attitudes pour conserver un paysage sont, de mon point de vue, beaucoup plus délicates que celles qu'on met en œuvre. Oui, les attitudes. Sont beaucoup plus complexes que celles qu'on applique pour garder, pour conserver des bâtiments. Et d'une certaine manière, elles peuvent éclairer ou faire évoluer la manière dont on peut conserver des quartiers de ville construits ou des bâtiments. Parce que les paysages ont un lien direct avec la manière dont on les entretient et dont on les utilise. J'ai en exemple toujours un bout de colline dans l'arrière-pays niçois, je suis niçois, où il y avait où le jardin était entretenu par un couple de bergers. Et donc l'herbe était coupée, il y avait un jardin planté, potager. Ils ramassaient les châtaignes, donc tout le bois était coupé, il n'y avait pas de pins parasites, il n'y avait pas d'arbustes, ils avaient des chèvres. Le mari est mort. Il n'y avait plus de chèvres. Les sous-bois ont commencé à pousser. On n'entretenait plus les châtaigniers, donc le paysage a bougé directement. Le potager s'est réduit, parce que la bergère seule ne pouvait pas avoir un potager très grand. Elle est morte. C'est un couple de médecins qui a le terrain. Il y a des jeux d'enfants et de la pelouse partout. Donc cet exemple, juste pour dire que le paysage est tellement lié à la manière dont on le pratique, est tellement fragile... que la question de savoir comment on le protège et quelle couche de paysage on protège, c'est-à-dire celui du couple de bergers, celui de la bergère seule ou celui du médecin. Je pense que cette question peut vraiment nourrir la manière dont on protège les centres-villes et dont on peut imaginer directement que l'usage de la ville, quoi qu'il arrive, il va imprégner les bâtiments et la ville. Et puisqu'on arrive à la fin du débat, si vous me le permettez, je conclurai avec une phrase de Lampedusa, représente Lampedusa? Lampedusa. Qui disait, pour que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Merci à tous.
Если у нас есть 10 минут времени, мы хотим показать вам наш фильм.
Lies in our age-old history. Our spirit lies in Gobustan, with its astonishing rock carvings and the amazing sounds of the Gaval Dash spreading out far away. These stones inspired some of our music and dances. They witnessed the Roman legion soldiers and travelers throughout the ages. They provide a soundtrack to Azerbaijan's unfolding story. For centuries, our spirit could be found in Ataşgah fires or in the Church of Kish, one of the first Christian churches in the Caucasus. Our spirit lies in the 8th century Juma Mosque of Shamakha, prominent survivor of earthquakes and furious battles. Our history resides in the Momeni Hatun mausoleums in Nakhchivan, the masterwork of the architect Memar Acemi. Our history lies in the illustrious palace of the Shirinshahs in Baku, or the intricate stained glass and mosaics of the Khan's palace in Shehi. We live in a country where, at the beginning of the 20th century, the first Baku oil magnates put up the building of the opera and ballet theater. And thanks to it, Azerbaijan became the first country in the Muslim world to perform opera, and along with it, to establish women's suffrage. Our nature is as rich as our culture. The spirit of Azerbaijan lies between the 4,466-meter peak of Mount Bazardozu and the 26.5 meters below sea level, Khor Araz lowland. First place in the world for mud volcanoes. The spirit of Azerbaijan lies in the Perosia tree, recorded in the Red Book, and the Hyrkan National Park, hosting the rare Caucasian leopard. All of this is our Azerbaijan. Azerbaijan hugs the shore of the Caspian Sea, the largest inland lake on Earth, so precious not only for us, but for the whole world. The spirit of Azerbaijan also lies in our culture, our traditions and customs. With a rich tradition of arts and crafts handed down through countless generations, Azerbaijan lives and breathes thanks to its cultural melting pot. Carpet making, a tradition that has urged to establish in Baku the Carpet Museum, one of a kind around the world. And the indisputable part of our culture is our music, an incredible mix of mukham, jazz and classic. This music is totally absorbed in our architecture, commonly called music in stones. Located at the crossroads of Europe and Asia, of Orient and Occident, and combining the best features of both civilizations, the spirit of Azerbaijan revives in Baku. Baku, with its architecture reminding of different historical periods and styles. İçeri Şehir, the old city. Surrounded by thick walls, the interlacing narrow cobbled streets of İçeri Şehir are protected from the daily life hubbub of a big city. Close to it, with an amazing Caspian Sea view, the iconic 12th century Maiden Tower bears its legendary history. The Maiden Tower is registered with the UNESCO list of World Heritage Sites. Centuries pass by, and behind the ancient walls, life has changed a lot. United in the small space, religions and cultures of different nations created an atmosphere of mutual respect. Baku is already a European city. Local entrepreneurs who grew wealthy during the oil boom brought to Baku some of Europe's most renowned architects. İsmailiye Building is modeled on the Venetian National Library of St. Mark. The Gothic-style Murtuza Mukhtarov Mansion is erected. the Baku City Hall is built. Each room of the Zeynep Abidin Tagiev Palace is designed in a special way. Baku Boulevard ground is laid. In European travelers' memoirs, Baku is referred as the Paris of the Orient. Soviet times lays ground of an absolutely different Baku. Modern, empire, and constructivism styles prevail. The capital city of Azerbaijan turns into a major industrial center of the Soviet Union. Industrialization processes brought to establish a totally new industrial district called Black City, with numerous factories, and to create Neft Dashlara, the first city based on an artificial island in the middle of the sea. Today, Baku has taken up a new era of development. The stunning Flame Towers and the Heydar Aliyev Center, last masterpiece of Zaha Hadid, turn to be the new symbols of the modern Baku. The incredible Heydar Aliyev Center building, with its shape seeking for eternity, seems to conquer people's souls. Within a megapolis, a special attention is being paid to ecological projects. The industrial Black City is being transformed into an ecological White City. Lots of green parks are developed. Baku is now living antiquity, traditions, and modernity. This is the spirit of Azerbaijan. We invite you all to discover it. Welcome to Azerbaijan.
Je suis venu aujourd'hui.